Il n'y a pas que le 8 mars, le temps d'une émission mensuelle, parce qu'en une journée, on ne peut pas célébrer toutes celles et tous ceux qui ont fait avancer les droits des femmes vers l'égalité. Tiens, notons entre autres qu'il y a tout juste 100 ans, Rosa Luxembourg, grande théoricienne, est morte assassinée le 15 janvier 1919 par des officiers nationalistes chargés de la répression de l'insurrection. Nous reviendrons sur la vie de Rosa Luxembourg, dont les convictions pacifistes, entre autres, lui ont valu la prison dès 1915. Il n'y a pas que le 8 mars, le temps d'une émission mensuelle, parce que 24 heures, c'est trop peu pour aborder l'égalité dans le travail, le droit de vote pour les femmes dans le monde. Février 2019, rencontre avec une étudiante d'aujourd'hui. Déjà toute jeune, à son arrivée en France, intégrant une classe de seconde, elle se proclamait féministe au lycée. Elle arrivait alors d'Albanie. Quelques années plus tard, que dit-elle de la place des femmes ? Elle, c'est Raymonda Lika, une jeune femme qui a toujours pris le taureau par les cornes, volontaire. Elle a su assurer le rôle de médiatrice entre ce nouveau pays et ses proches. Elle a assuré dans des situations familiales difficiles, tout en tenant le cap avec détermination vers son indépendance. Je suis heureuse, Raymonda, que nous puissions faire cette émission ensemble. Allez, on commence par une chanson que tu as choisie.
La chanson que nous allons entendre, elle a été écrite et chantée par Amel Bent en collaboration avec la rappeuse Diams.
Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit, je reste le point levé. Pour le meilleur comme le pire, je suis métisse mais pas martyr. J'avance le cœur léger, mais toujours le poing levé. Lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix. Je suis l'as qui bat le roi. Malgré nos peines, nos différences, et toutes ces injures incessantes, moi je lèverai le poing. Encore plus haut. Toutes ces filles ont des visages, ont des habits. Moi j'ai des formes et des rondeurs. Ça sert à réchauffer les cœurs. Fille d'un quartier populaire, j'ai appris à être fière. Bien plus d'amour que de misère. Bien plus de cœur que de pierre. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, avec la force et le sourire. Le poing levé vers l'avenir. Lever la tête, lever le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix. Je suis l'as qui bat le roi. Viser la lune, ça me fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé.
En compagnie aujourd'hui de Raymonda sur Radio P. Lorsque nous nous sommes connus, tu étais alors au lycée Caria, tu te proclamais féministe, ça voulait dire quoi à cette époque ?
Alors la notion de féminisme n'est pas la même en étant adolescente ou en étant adulte.
Bien sûr.
Au lycée, j'étais scandalisée d'écouter mes camarades voir mes profs dire « tu es une fille, tu n'y arriveras pas » ou des bêtises dans le genre. Ça me mettait hors de moi d'écouter des plaisanteries misogynes sur une fille ou une femme qui était soit trop maquillée, soit trop mince, soit trop ronde. Ces messieurs, voire ces dames, ne comprenaient pas qu'une femme est libre de disposer de son corps comme elle le souhaite. En choisissant une filière scientifique, je savais que les filles de ma classe seraient minoritaires, mais peu m'importait, j'allais y arriver. Aujourd'hui, je prends du recul par rapport aux propos misogynes, ça ne m'atteint plus, depuis que dans ma tête je me suis dit « tu peux tout faire, il n'y a pas de métier d'homme ou de femme ». Je refuse d'être la femme douce, belle ou gentille que les hommes convoitent. Je dis haut et fort ce que je pense, que ça plaise ou pas. Pour moi, être une féministe, c'est ne pas se plier aux règles du patriarcat, c'est ne pas accepter d'être celle qui assume toutes les tâches ménagères et l'éducation des enfants, c'est ne pas accepter d'être la gentille petite fille qui s'efface derrière les hommes. C'est d'être celle qui accepte son corps tel qu'il est et qui ose, et surtout celle qui n'a pas besoin d'un homme pour réussir dans sa vie.
Tu venais alors d'Albanie à ce moment-là. Quelle était alors la place de la femme dans la société albanaise? Et en fait, du coup, quel était l'avenir d'une jeune fille en Albanie?
Alors, en Albanie, comme dans la Grèce antique, les femmes sont cantonnées au gynécée, c'est-à-dire l'espace féminin, en gros la cuisine. Ça peut en choquer certains, cette comparaison, mais c'est la vérité. La femme assume de plus en plus, en plus de son métier, toutes les tâches ménagères, s'occupe des enfants et est une gentille petite épouse qui s'efface derrière son mari. Être une jeune fille en Albanie, et notamment dans les milieux campagnards ou montagnards, c'est de passer des ordres du père à ceux de son mari, qu'on ne connaît pas avant le mariage dans de nombreux cas.
Même encore maintenant, c'est
oui, même encore ça. Ouais. Par bonheur, les choses évoluent de nos jours. Les jeunes hommes commencent à voir autrement la place de la femme au sein de la société et de la famille. Je me rappelle que lorsque j'ai dit à des personnes de mon entourage que mon compagnon ne m'aidait pas avec les tâches ménagères, mais qu'il les accomplissait avec moi, autant que moi, voire plus, parce que c'était à nous deux de le faire et pas qu'à moi, j'ai vu des visages stupéfaits. Ce n'est pas le rôle de l'homme de faire la vaisselle, voyons. Alors c'était Aretha Franklin, la reine du soul, qui demande juste un peu de respect pour nous les femmes, sur Radio B, dont il n'y a pas que le 8 mars.
On continue, conversation avec Raymonda. Alors tu es arrivée d'Albanie à l'âge de 17 ans, sur Bourg, tu étais au lycée Caria. Tu nous as parlé tout à l'heure des réactions assez vives que tu avais quand tu entendais des propos misogynes. Maintenant, quelques années plus tard, tu es dans ce qu'on appelle la vie active. Tu étudies quoi ?
Alors aujourd'hui, je suis en master MEF, histoire-géographie, dans le but de réussir le concours et de devenir enseignante.
Rien que ça. À l'université, puisque tu es à l'université, que peux-tu dire alors de la place des femmes? Les étudiantes se préoccupent-elles de l'égalité hommes-femmes?
Alors à vrai dire, au sein de mon université, le combat pour l'égalité hommes-femmes est invisible. Il existe sans doute des petits groupes, mais leurs réactions sont que ciblées. Les étudiantes se battent plus pour les droits au travail, contre l'homophobie ou contre le racisme.
Ouais, qui sont des thèmes qui sont plus universels et moins genrés, on va dire.
En effet.
Ouais. Eh bien moi, donc, je suis allée à la pêche aux informations et sans autre analyse que de relever simplement les chiffres. Eh bien, ce que j'ai trouvé, c'est qu'en ce qui concerne les postes de responsabilité, de gouvernance, comme on les appelle, sur les trois universités lyonnaises et publiques, eh bien, les centres universitaires, donc, qui est le plus proche de Bourg, on relève deux présidents et une présidente. Et pour les vice-présidences, il y a 26 hommes pour 10 femmes. Des commentaires ?
Cela ne m'étonne pas. Dans mon université, la Lyon 2, c'est la première présidente de l'histoire de l'université.
Oui, qui soit féminine.
Voilà.
Voilà. Donc après les présidences, on voit plein de femmes, mais sur les postes vraiment de responsabilité, en haut de l'organigramme, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, toi, tu es étudiante en histoire. Est-ce que dans l'enseignement donné, dans les savoirs, les connaissances qui sont transmises, les femmes, est-ce qu'elles sont aussi présentes que les hommes ?
Alors, dans la discipline histoire-géographie, les femmes sont très peu présentes dans les programmes scolaires. A contrario, la profession d'enseignante d'histoire-géo est majoritairement féminine dans le secondaire, comme le reste des matières littéraires, c'est-à-dire tout ce qui est langue ou français. Je me rappelle qu'au lycée, il y avait une double page qui parlait des femmes au XXe siècle, comme si elles ne pouvaient pas être incluses dans les autres pages du manuel. Mmh. Les figures féminines qui reviennent le plus souvent sont Simone Veil ou encore Olympe de Gouges. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une révolutionnaire qui a écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791.
On devrait l'apprendre comme les droits de l'homme, finalement.
En effet, mais on ne l'apprend pas. On ne parle pas des reines, des maîtresses des rois telles que la marquise de Pompadour, des femmes de président ou encore des scientifiques telles que la mathématicienne Émilie de Châtelet.
C'est vrai, peut-être que les choses vont évoluer, il faut espérer en tout cas.
Peut-être.
Alors moi, une curiosité que j'ai, je me pose souvent la question, est-ce que les enseignantes utilisent le langage inclusif dans leurs cours oraux ou écrits ?
Alors dans le milieu universitaire, l'écriture inclusive est utilisée de plus en plus. Mes enseignants, enseignantes, s'efforcent de plus en plus de l'appliquer surtout à l'écrit. Dans le secondaire, l'évolution est plus lente et dans l'opinion publique aussi. Un jour, je lisais un post dans les réseaux sociaux d'une enseignante qui questionnait ses collègues à propos de l'écriture inclusive. Les réponses de la majorité, c'était « c'est un combat féministe, insensé, il y a plus important dans la vie » ou encore « ça ajoutera encore plus de difficultés pour les élèves avec des problèmes dyslexiques ». Quand j'utilise des termes tels que « mairesse »,« directrice »,« doctoresse » ou encore « professeur » avec un « e » à la fin, je passe des fois pour celles qui ne maîtrisent pas la langue française et qui inventent des mots.
Eh bien, tiens, justement, restons dans le thème. Tu as choisi un texte d'une grande figure féministe, Benoît de Groult, qui nous a quittés il y a presque 3 ans maintenant. Tu veux bien nous le lire, s'il te plaît ?
Alors, quand on dit écrivaine, comme on dit souveraine ou châtelaine, on passe pour une terroriste verbale. Quand on dit doyenne, on ne peut parler que d'une centenaire, car à l'université, bastion mâle, le masculin est de rigueur. Dans les métiers bas de gamme, pas de problème. On est opératrice, standardiste ou enquêtrice. On est institutrice, mais pas rectrice. Car dans les professions de prestige ou d'argent, le genre féminin n'a pas droit de cité.
Alors, merci Raymonda, on est toujours sur Radio B. Ce texte est issu d'un recueil qui s'appelle « Paroles de femmes » chez Albin Michel, qui m'a été offert par un ami, Jackie, un homme super.
Alors, Benoît Groult a assuré la présidence de la commission pour la féminisation des noms de métiers, de grades et de fonctions fondée par Yvette Roudy, alors ministre des droits de la femme, au travail grammairien, linguiste et écrivain.
Thank you. absences, c'est du sentiment. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout, le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout, sous mes pieds le ciel revient.
Alors, Christine and the Queen, chanteuse, auteur, compositeur, interprète, elle se fait surnommer désormais Chris et adopte un nouveau look androgyne. Nous venons d'écouter Christine and the Queen sur Radio B, il n'y a pas que le 8 mars.
Alors, nous l'avons dit tout à l'heure, tu fais des études, Raymonda, en histoire, pour être enseignante. Et pour pouvoir suivre tes études, eh ben, comme pas mal d'étudiants, tu travailles. Peux-tu nous parler de cet emploi ? Un emploi étudiant, c'est quoi au juste ?
Alors, afin d'arrondir les fins du mois, je travaille de la grande distribution en tant qu'étudiante. J'ai un CDI étudiant, c'est-à-dire que je ne peux pas travailler plus que 21 heures par semaine en temps normal, et j'effectue 34 heures au lieu de 35 en période d'été. Et que sauf en cas de faute grave, je ne peux pas être licenciée tant que je continue mes études. Alors, pour trouver cet emploi, j'ai envoyé près de 30 CV et je n'ai eu qu'une poignée de réponses, dont une seule positive. Le monde de la grande distribution est essentiellement féminin en ce qui concerne les hôtesses de caisse et masculin en ce qui concerne l'encadrement. Là où je travaille, de tous les chefs d'équipe, il n'y a que deux femmes, la chef des hôtesses de caisse et la chef du rayon des produits ménagers.
Étonnant.
On voit bien que les stéréotypes continuent de plus belle.
Dans l'émission, nous sélectionnons une ou deux actualités. C'est notre rubrique Droit devant dans Il n'y a pas que le 8 mars sur Radio B. Alors Raymonda, toi tu es partie de l'autre côté de l'Atlantique.
Alors le 19 janvier 2019 a eu lieu aux États-Unis la troisième édition de la Marche des femmes. Ce mouvement a été créé aux États-Unis en 2017. Suite à l'élection du président Donald Trump, dans les rues de New York, 100 000 femmes ont défilé pour défendre les droits des femmes qui sont, selon elles, bafoués par le président. Elles contestent entre autres la séparation des familles des clandestins ainsi que le mur anti-immigration que Trump veut ériger. Une des manifestantes exclame « Je marche pour l'égalité des genres et l'égalité des salaires, pour les victimes d'abus sexuels et pour dire qu'on veut être entendu ». Rappelons qu'aux États-Unis, un des droits fondamentaux des femmes, celui de disposer de son corps, est très restreint dans de nombreux pays, à l'instar de l'Iowa, qui en mai 2018 interdit l'IVG à partir du moment où les battements du cœur du fœtus sont perceptibles, c'est-à-dire à environ 6 semaines.
Ouais, donc on voit que ce mouvement a des revendications tout à fait féministes, mais pas que. Hein. Mais c'est le mouvement où on a vu de très nombreuses femmes majoritaires dans le cortège, il y a aussi des hommes, qui portaient un bonnet rose. Hein, ça, c'était,
c'est ça, les bonnets roses.
Les bonnets roses, c'est eux qui avaient mis ça à la mode, devenu l'emblème du mouvement né en janvier 2017, comme tu disais. Alors, en espérant que ce mouvement sache garder son unité et sa force face à la politique de Trump et à essayer d'ébranler ce gouvernement. Alors moi, je suis restée en France et le lendemain, le 20 janvier, c'était pas les mêmes valeurs qui étaient prônées. Plusieurs milliers de personnes, dont beaucoup de jeunes, ont commencé dimanche à défiler à Paris pour leur 13e marche, ça fait beaucoup, marche pour la vie en opposition à l'avortement. Cette marche est organisée par Nicolas Sevilla, secrétaire général de la Fondation Jérôme Lejeune. Cette fondation d'inspiration chrétienne est l'une des principales associations du mouvement pro-vie qui existe depuis pas mal de temps en France, des militants contre l'IVG et l'euthanasie. Dans cette manifestation, le sénateur argentin Mario Fiad a pris la parole en début du rassemblement pour soutenir la marche. On rappelle que le Sénat argentin a voté en août contre l'avortement. Et la marche pour la vie n'est pas confessionnelle, mais l'ambassade du Saint-Siège à Paris a transmis, selon les organisateurs, un message d'encouragement du pape François. Donc tout n'est pas encore tout à fait sûr en France, il faut faire attention.
Culturels.
Allez, encore un aller-retour. On retourne en Albanie. Il y a quelque temps, au cinéma, on a pu voir un film qui s'appelle « Vierge sous serment », inspiré d'un roman de l'Albanaise Elvia Donnes, écrit et réalisé par Laura Bispuri, et sorti en 2015. Je crois que tu l'as vu, toi aussi, Raymonda.
Eh oui, je suis allée voir le film « Les Vierges sous serment » avec une amie. Tout au long du film, je me rappelle, elle était stupéfaite. Mais c'est vraiment comme ça en Albanie, elle me demande. Le film se déroule dans les campagnes montagnardes du nord de l'Albanie. Il faut savoir que plus nous allons vers ce qu'on appelle entre guillemets le rural profond en Albanie, plus la femme elle est écrasée par le patriarcat. L'héroïne du film, prénommée Anna, refuse d'être mariée à un inconnu qui la traitera comme une moins que rien. Pour éviter ça, elle décide de se métamorphoser en homme. Je jure qu'aucune main ne me touchera tel que Dieu m'a créé. La vie me préservera, je jure, de rester éternellement vierge. Cela ne se fait pas d'aller dans la forêt sans un homme. Ça ne se fait pas de faire un travail d'homme. Ça ne se fait pas de tenir un fusil. Elle devra rester vierge toute sa vie et en contrepartie, elle pourra manier les armes comme les hommes, elle pourra sortir et boire un café comme eux. À travers ce film, on voit la vie difficile de ces femmes par le biais notamment de la sœur d'Anna, sa sœur spirituelle, qu'on oblige à se marier avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Pour éviter ce mariage forcé, elle fugue avec celui qu'elle aime en Italie. À la fin du film, les deux sœurs se retrouvent en Italie et Anna finit par assumer sa féminité sans contrainte. Elle enlève le bandage qui cache ses seins et tombe amoureuse d'un homme.
Alors c'est quand même super intéressant ce film. Moi j'ai appris plein de choses parce que les vierges sous serment, comme on les appelle, seraient les seuls cas en Europe d'encadrement traditionnel et social de concepts comme le transgenre et le travestissement. Quelques centaines de femmes en Albanie en 2008 étaient encore des vierges sous serment. En fait, il n'y a pas de limite d'âge pour prononcer le serment qu'on a entendu un petit peu, hein, que tu nous as dit dans la bande-annonce du film. Et la motivation peut venir soit de la volonté individuelle de la femme, elle veut prendre plus d'indépendance ou se sortir d'un mariage arrangé, comme tu disais, une femme, par exemple, qui voudrait être homosexuelle, c'est quand même plus facile pour elle si elle rentre dans ce cadre. Et soit, des fois, c'est la famille qui la pousse à être vierge sous serment. Je disais il n'y a pas très très longtemps en regardant ce sujet qu'en fait Il y a des villages où il y a presque plus de femmes. Et en fait, pour pouvoir faire les travaux d'hommes, eh bien, c'est quand même bien pratique de pouvoir déléguer ces travaux à une femme qui passerait sa vie d'un côté un petit peu retiré. Hein. En tout cas, je trouve que c'est très étonnant, ces arrangements avec le genre. Alors Raymonda, tu as choisi un autre texte.
Alors j'ai choisi un texte de Taslima Nasrin, une écrivaine féministe bangladaise exilée depuis plus de 24 ans suite à une fatwa contre elle. Elle a été chassée de son pays par le gouvernement pour avoir blasphémé. Elle dit « Je sais qu'il faut que je continue, mais peu importe où je vivrai, je poursuivrai mon combat », dit-elle. La scène se passe dans un bidonville, une jeune femme qui semble vieillie avant l'âge et avec un homme deux fois plus âgé qu'elle. Brusquement, l'homme l'attire violemment à lui, la prend par le cou, puis la pousse. Elle tombe contre une palissade de bambou. Il lui lance deux coups de pied dans les reins, puis la relève en la tirant par les cheveux. Il l'emmène dans une chambre. C'est son mari. En les voyant, je n'ai pas été étonnée. Moi qui suis médecin et qui fais partie de la classe privilégiée, ne suis-je pas humiliée de la même façon? On me pousse aussi après m'avoir prise par le cou. Je tombe aussi contre les murs et j'ai le visage en sang. Sur mes papiers d'identité, je suis une citoyenne privilégiée, mais qu'importe, puisque je ne suis qu'une femme. Le code de la famille est le même pour la femme du bidonville et pour moi. Ce mari, comme le mien, a le droit de prononcer trois fois le mot « divorce »,« talak », pour me répudier. Comme le mien, au gré de ses caprices, la religion lui accorde le droit d'être polygame et de prendre quatre épouses.
Ouais, mais on voit bien que le féminisme ne se place pas au même endroit selon qu'on soit une femme née dans la campagne albanaise, comme une vierge sous serment, ou au Bangladesh, comme Taslima Nasrin, que tu viens de nous lire, ou à Bourg, dans une ville française. Alors, donc du coup, eh ben, on revient à Bourg, de retour à Bourg avec Culturels. Le thème culturel proposé par la ville cette année est « Femmes ». Tiens, tiens, on ne pouvait pas ne pas nous y intéresser, d'autant que nos petites camarades de la Radio B ont présenté un projet en collaboration avec le Photoclub Bressan. Pauline, notre technicienne préférée, porte avec Elodie ce projet pour Radio B. Elle nous en parle. Pauline, d'où vient ce nom? Que recouvre-t-il?
Alors, féminitude, c'est un mot qui a été choisi par Lionel, un photographe de l'équipe des photographes du projet, du Photoclub Bressan. C'est un mot qu'il a trouvé, inventé. Ça lui a plu et ça nous a plu parce que c'est un mot inventé, mais à partir de la racine du mot « femme » ou « féminité féminin ». À partir de ce mot-là, il a trouvé « féminitude ».
Le projet est en train de se réaliser, les séances ont commencé. Est-ce que tu peux nous en parler sans toutefois tout dévoiler?
Bien sûr. Alors, on a fait un appel à participantes. Il y a une vingtaine de femmes qui ont répondu présentes, volontaires, pour participer à ce projet. Moi, mon boulot, c'est de les rencontrer une à une pour leur poser des questions. C'est toutes les mêmes questions pour toutes les femmes et instaurer une discussion autour de la féminité. Qu'est-ce que c'est que d'être femme, de se sentir femme, être femme aujourd'hui, être femme demain aussi. On leur demande tout un témoignage, en fait, au niveau de leur féminité et leur manière de l'appréhender. Donc ça, c'est une première partie. Et la deuxième partie a lieu devant l'œil et l'objectif des photographes. Pour dévoiler une partie de leur corps qu'elles choisissent, qui représente pour elles la féminité.
Alors, des photographes hommes, des photographes femmes?
Trois photographes hommes.
Et est-ce que tu peux nous dire alors le rendu, où est-ce qu'on pourra voir ça et comment ça va être présenté aussi ?
Oui, alors ça sera une exposition sonore qui a lieu donc dans le cadre de l'événement culturel de la ville Femmes. Ça aura lieu au mois de mai, entre le 8 et le 12 mai. Ça devrait être à H2M, mais comme le projet est encore en train de se constituer, il y a encore des points d'interrogation à des endroits, mais ça devrait être à H2M. Dans une petite pièce qu'on imagine un peu comme un cocon. Pour pouvoir profiter de ces photos et à la fois d'entendre le témoignage de ces jeunes femmes.
Alors moi, j'ai eu la chance de me glisser dans les studios avec les photographes et je peux vous dire que les photos seront assez surprenantes. Les photographes, contraints par leur sujet, tournent, essayent, cherchent un angle, un cadre, un exercice pas facile mais passionnant, une touche de féminité mise en ombre et en lumière. Notre émission touche à sa fin. Vous venez d'écouter « Il n'y a pas que le 8 mars » sur Radio 90.0, une émission proposée et animée par Joël Garraud. Merci Raymond Alica d'avoir participé à l'aventure.
Merci à toi.
Un grand merci aujourd'hui à Théophile Callard, notre technicien. Mais parce qu'une journée, on ne peut pas célébrer toutes celles et tous ceux qui ont fait avancer les droits des femmes vers l'égalité. Mais parce qu'en 24 heures, c'est trop peu pour aborder l'égalité dans le travail, le droit de vote pour les femmes dans le monde, l'utilisation de l'image des femmes pour vendre du shampoing, une cuisinière ou une voiture. Eh bien, rendez-vous lundi 18 février pour une rediffusion. Vous pouvez évidemment réécouter nos émissions en podcast sur www.radio-b.fr. Restez à l'écoute de Radio B et à très bientôt.